Comme on le fait presque chaque semaine, je m'entretiens avec Ray Lalonde, expert sport et business pour l'ensemble du réseau Cogeco. Vous pouvez le voir également à RDS. Vous pouvez le suivre surtout sur Twitter, Ray Lalonde. Et chaque jour, il vous présente un podcast fort intéressant qui s'appelle Focus. Le podcast de ce matin est en anglais. Il parle de Gary Bettman, les 25 ans de son règne à la barre de la Ligue nationale de hockey. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Dan.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci, toi.
Oui, merci. Gary Bettman, c'est... Évidemment, là, je parle pas à Québec, puis je parle pas quand il présente le trophée de la Coupe Stanley. Là, il se fait huer. mais dans l'ensemble, Ray, c'est quasiment juste positif, son bilan?
Oui, je pense que c'est bien dit, ça. C'est quasiment juste. Tu sais, il y a quand même eu deux lockouts. Ils ont raté les Jeux olympiques en 2018. Moi, à mon avis, c'était une occasion ratée complètement. Un petit peu d'orgueil des deux côtés. Mais dans l'ensemble de l'œuvre, quand tu regardes la Ligue nationale de hockey, 25 ans après l'arrivée de Gary Bettman, premièrement, on n'a même pas vu passer les 25 ans. À part les fans irréductibles des Canadiens qui attendent depuis 25 ans et plus maintenant pour la Coupe Stanley, ça a été vite parce que Bettman a constamment gardé la Ligue nationale à l'affût de la business, de l'industrie, qui suit son cours. Le hockey est évidemment moins populaire en Amérique du Nord que les trois autres ligues majeures, NFL, NBA et Major League Baseball. Mais avec la MLS comme cinquième ligue, le hockey, c'est normal qu'il soit toujours en amont, en train d'essayer de rattraper les autres. Mais Gary Bettman a fait en sorte que l'écart est moins grand, puis la Ligue nationale fait des choses modernes, innovatrices, comme les autres ligues le font.
OK. Puis, en même temps, c'est-tu un gars qui pourrait être là encore longtemps, Ray?
Ben moi, je pense que oui. Premièrement, il a 66 ans actuellement. Tu sais, il vit quand même une très bonne vie. Il est bien payé. Les propriétaires l'adorent. Il n'y a vraiment pas de controverse. Tu te rappelles l'an dernier la controverse au sujet de Roger Goodell puis la NFL? Ça, c'était pas si simple que ça. La légion de propriétaires de la Ligue nationale de football a des particularités très uniques. Et puis, ce sont plus des gars qui sont là comme grands chefs d'entreprise, très fiers, très orgueilleux, ne veulent pas trop partager. Dans le hockey, les gens se sont mis au pas de Gary Bettman. Donc, il est bien protégé par les propriétaires. Donc, à mon avis, je pense pas qu'il en soit à son dernier contrat. Okay. Ça, c'est mon avis personnel. Mais c'est vrai que quand tu arrives à 70 ans, tu veux peut-être en profiter un peu de ces moments-là. Tu es déjà au temple de la renommée. Et la vie est quand même assez courte des fois. Donc, lui, il doit s'assurer qu'il est encore aussi alerte et qu'il est encore aussi enthousiaste à l'idée d'aller travailler 15 heures par jour à New York et partout en Amérique.
OK, je pense pas que le débat est de savoir si oui ou non il a sa place au temple de la renommée du hockey. Par contre, le débat est de savoir si oui ou non il avait sa place pendant son mandat. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, moi, personnellement, j'aurais attendu. Honnêtement, mais c'est pas parce qu'il le mérite pas. Tu l'as bien dit, Dan. C'est sûr qu'il le mérite. Il y a des gars qui ont atteint le... Tu sais, comme bâtisseur, c'est dur de trouver un gars qui a fait plus de contributions que Gary Bettman pendant 25 ans dans un circuit. Alors, c'est sûr qu'il méritait d'être là. D'ailleurs, David Stern est déjà au temple renommé pour la NBA et ainsi de suite. Alors, c'est pas le premier comme ça. Et en passant, John Ziegler, Clarence Campbell avaient été élus aussi pendant leur mandat. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, on doit... Les bâtisseurs, c'est une autre catégorie. On doit favoriser les joueurs qui ont contribué au succès. Et si Gary Bettman rentre là pendant qu'il est encore actif, ben il y a toujours le risque que quelque chose se produise de controversé par la suite, en fin de carrière. C'est peu probable, mais ça peut arriver. Et là, on fait quoi quand un gars est déjà rentré au temple et il n'a pas fini de jouer? Il est encore un activiste et un artisan du succès du hockey. C'est mon seul point. Je trouve qu'il mérite d'être là. On aurait pu attendre quelques années.
Puis en même temps, on demande aux joueurs d'attendre 3 ans après la fin de leur carrière.
Tout à fait.
Pourquoi pas demander aux bâtisseurs?
Absolument.
OK. Tu as fait un podcast cette semaine qui a fait réagir concernant les réseaux sociaux et le monde du sport. As-tu l'impression qu'on en parle assez?
Tu sais, Dan, les réseaux sociaux, c'est un peu un mystère. C'est un peu comme évidemment, c'est la technologie, mais tu sais, au début, il y a 10 ans, quand le premier iPhone est sorti, on pouvait jamais imaginer que ça serait un appareil aussi intelligent, performant que le numéro 10 ou la version X qui est sortie récemment.
Ouais.
Sachant que ça évolue si vite, ben, les médias sociaux, c'est un peu la même chose. Tu sais, je parlais de Cristiano Ronaldo puis d'FC Barcelone. Barcelone, ils ont une plateforme, une position, un message sur 15 plateformes de médias sociaux dans le monde, y compris 2-3 en Chine, en chinois. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence énorme. C'est un engagement important pour l'équipe de communiquer avec leurs partisans. On est dans une business, le sport, où la technologie règne, où l'innovation, la créativité est essentielle à la survie, où il y a énormément de besoins et d'intérêts chez les consommateurs de toucher, de connecter, de palper, de concrétiser leur engagement envers leurs équipes. Les médias sociaux sont l'outil fondamental et je pense que c'est pas qu'on le néglige, mais je pense que les gens veulent pas trop en parler parce que il y a encore tellement de choses à découvrir, c'est tellement mystérieux. Tu as juste à regarder les tu sais, à chaque fois que tu regardes un site internet sur, dans le sport, il est toujours plus moderne et plus récent que le précédent.
Ouais.
Il y a tellement plus de technologies qui affectent de nos jours. Ça, c'est un domaine où on a... C'est un peu comme le e-sport, Dan. Ça évolue tellement vite, mais 80% des gens ne comprennent pas grand-chose dans le e-sport. Moi, je peux te dire que sur la planète entière, les chiffres qui sont sortis de Newzoo cette semaine, 1,6 milliard de gens sur la planète sont conscients et connaissent quelque chose dans le e-sport. Là, on parle 1,6 milliard d'à peu près 20 à 25% de la planète. C'est un chiffre qui est phénoménal. Puis tout ça s'est passé dans les 2-3 dernières années. Donc, je pense que les médias sociaux ont du chemin à faire encore une fois, mais c'est la seule voie du succès pour l'avenir.
Puis le dilemme, Ray, pour les médias sociaux, c'est toujours de partager du contenu ou faire la promotion des équipes ou je pense à nous dans les médias, sans trop écœurer les gens.
Oui. Parce que, tu sais, les médias sociaux, c'est un peu plus subjectif. Pourquoi? Parce que c'est plus personnel. Il y a moins de filtres. Il y a forcément une plus grande souplesse, c'est plus libéral comme message, et c'est pour ça que les équipes contrôlent le message, ils disent un peu ce qu'ils veulent. La même chose que les athlètes. Le meilleur exemple, Dan, c'est Donald Trump. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi incroyable que les commentaires de Trump quotidiennement? Trump, il s'est dit, moi je vais contrôler mon message, je vais dire ce que je veux, personne ne va m'arrêter, puis je me fierai pas aux réseaux traditionnels pour expliquer mon point de vue, qu'il soit dans le champ ou non. Bon, et pourtant, il touche quand même 50 millions d'Américains qui sont abonnés, ou d'Américains ou de résidents du monde entier,
oui,
qui sont abonnés à son message. C'est une façon d'illustrer les risques et les périls, mais aussi les avantages et les bénéfices d'avoir une plateforme comme les médias sociaux efficace.
OK. Est-ce que tu as l'impression que dans les médias sociaux versus le monde du sport, on n'a encore rien vu? Est-ce que, tu sais, on a vu... Dans la société en général, l'arrivée de Facebook, ensuite Twitter, plus récemment Instagram, je suis moins les plateformes pour les jeunes, là, comme Snapchat et compagnie, je suis pas là-dessus, mais as-tu l'impression qu'on n'a encore rien vu, médias sociaux versus monde du sport?
Le danger là-dedans, c'est que tu as certaines plateformes qui ont tellement une longueur d'avance sur le reste là, que ça va être très difficile pour quelqu'un d'autre d'inventer un autre Google ou un autre Twitter ou un autre YouTube et ainsi de suite. Cela demeure un fait que je pense que les athlètes et les équipes et les organisations sportives sont plus efficaces, plus performants. Ils allouent des ressources, ils embauchent des gens spécialisés pour exploiter ces outils-là. Donc, c'est pas qu'on n'a rien vu encore, mais mettons qu'il y a encore beaucoup plus de terrain de jeu, si on veut, devant nous que derrière nous. Alors, il y a encore plein de choses qui vont se lancer, y compris probablement des plateformes uniquement dans le sport, qui sont des façons de communiquer avec des partisans, comme Twitter ou Snapchat ou Instagram ou Facebook le sont pour les généralités. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va se spécialiser davantage dans le sport.
OK. Les Warriors de Golden State de la NBA disent aux gens intéressés à leur match, entrer dans l'aréna sans aucun biais. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien.
Non, puis tu sais, Dan, c'est pas pour l'argent qu'ils font ça. Tu sais, tu connais un peu les ressources d'une équipe de la NBA. Le cap salarial d'une équipe cette année, c'est 102 millions. T'as à peu près 13 joueurs, 14 joueurs sur le payroll, si on veut, là, la masse salariale. Imagine l'argent qui est là-dedans. T'as des gars qui gagnent 40 millions. Bon, c'est pas pour 200 places à 100 $ par mois fois 6 mois, ça fait 120 000 $. Puis même si les gars, les dames, mangeaient, buvaient beaucoup à volonté à coût de 50, 100 $, on parle de quelques centaines de milliers de dollars au total. C'est plutôt l'expérience. Ça, c'est un mot que je ramène toujours sur la table. Les gens veulent dire à leurs partisans, les Warriors, écoutez, on n'a pas de billets pour vous, là, mais il y a une façon de participer à notre expérience puis de vivre un moment, c'est d'être là. On peut toujours dire, comme on voit les T-shirts des fois, « I was there », j'étais présent.
Ouais.
Alors, c'est pas grave que tu n'aies pas vu le match de tes yeux. De toute façon, il y a un écran juste à côté. Tu sais très bien qu'il y a des gens dans un amphithéâtre de sport qui passent leur soirée dans le restaurant ou dans le bar qui vont même pas s'asseoir dans les sièges. Alors, c'est tout à fait compréhensible que les Warriors disent, écoute, on a une opportunité, nous, de quitter Oakland à la fin de la saison. On déménage à San Francisco, de l'autre côté de la baie, pas très loin, mais ça demeure un fait que les Warriors vont avoir un nouvel amphithéâtre. Et tant qu'à ça, c'est notre dernière saison, puis on est champion ultime, puis on est une légende, une dynastie dans l'NBA, pourquoi pas créer un petit produit comme ça pour encore une fois convertir des partisans? C'est important d'être généreux. 100 $, c'est moi, si j'étais là, je l'achèterais demain matin. Okay. Même si j'allais que quelques fois dans un mois, 100 $, c'est ridicule.
OK. Tu connais très bien le mouvement olympique pour y avoir travaillé. Dominique Gauthier a écrit une lettre ouverte à Thomas Bach, le président du CIO. C'est publié d'ailleurs sur la plateforme de Radio-Canada. Il dit « Les gens de Calgary cette semaine, M. Bach, se sont montrés en désaccord, pas avec les Jeux olympiques, mais avec votre organisme. Est-ce que c'est la lecture que tu fais du vote du non à Calgary? »
Oui, entièrement. Je pense qu'on peut pas questionner le souhait, l'amour des Canadiens de Calgary à Québec pour le sport amateur, pour le sport olympique, pour le sport d'hiver en particulier. Donc là-dessus, là, ça n'a rien à voir avec le sport et la compétition. Puis on sait tous que c'est dommage pour les athlètes canadiens qui n'auront pas l'opportunité de se faire valoir au pays même, là. Mais cependant, le message, c'est envers le CIO. Le CIO a l'argent pour payer les Jeux olympiques pour chacune des villes d'année en année. Les réseaux de télévision du monde, NBC en particulier aux États-Unis, ça envoie des centaines de millions de dollars pour chacun des Jeux. Je pense la dernière fois, Pyeongchang 2018, un peu plus tôt cette année, en hiver, je pense la facture d'NBC, c'était 950 millions de dollars US pour 2 semaines de Jeux. Uniquement NBC. Tu comprends que chacun des partenaires majeurs dans les commanditaires du CIO paye 50 millions de dollars par année. Même s'il n'y a pas d'Olympique, c'est 50 millions de dollars par année quand même. On appelle ça les Top Olympic Partners. Alors, l'argent coule à flot à Lausanne pour le CIO. Tu sais très bien aussi que les organisations ne s'attendent pas à ce que ce soit gratuit. Mais on ne peut pas rentrer dans des 5, 6, 7 milliards de dollars. Vancouver, ça va coûter 7 milliards. Puis Vancouver a déclaré, une rentabilité sur le 2 milliards d'opérations. Mais le 5, 6 milliards de plus, c'est un investissement, c'est des coûts, ça. Ils n'ont pas récupéré cet argent-là. Ils ont eu une meilleure infrastructure. Mais est-ce que tu as besoin de Jeux olympiques pour créer de l'infrastructure? Alors, il a raison, M. Gauthier, à cet effet-là. Jean-Luc Brassard a raison aussi que c'est un peu rendu de la décadence. Puis moi, je pense que Calgary va forcer les gens du CIO à revoir complètement la sphère agenda 2020, là. Là, on va parler d'une métamorphose. Parce qu'actuellement, tu n'as pas grand ville d'intéressé à accueillir les Jeux été ou hiver, la facture étant trop élevée.
OK. Ray, j'ai une question qui me passe par la tête parce qu'on voit beaucoup de matchs à la télé ces temps-ci. On voit des matchs de hockey. On voit le Canadien sur la route. Puis, tu as travaillé au marketing du Canadien. Puis, j'ai une question sur la publicité qu'on voit à la télé et même sur les bandes dans certains amphithéâtres où il y a des espaces libres. Je suis toujours intrigué de voir le Canadien jouer à Buffalo, puis derrière le filet, pour nous les téléspectateurs, je sais que dans la vraie vie, on voit pas la pub comme telle, mais derrière le filet, il y a une pub de, mettons, Honda Laval. Oui. Comment ça fonctionne, puis à qui va l'argent? Au télédiffuseur, dans ce cas-ci?
Oui, bien, alors, c'est une excellente question, puis ça varie de situation à situation. Je me rappelle, pendant longtemps, lorsque les Canadiens étaient sur la route, puis je voyageais avec l'équipe, je me retrouvais dans des endroits comme en Floride ou en Caroline. Puis on avait les gens de Caisse Populaire Desjardins, entre autres, Techo Bloc, un autre, achetaient de la publicité dans les arénas là-bas. Pourquoi? Un, c'est moins cher. Pas mal moins cher qu'au Centre Bell. Deux, il y a de la place. Il y a de l'inventaire, disponible. Puis, troisièmement, ils savaient très bien que les gens qui écoutaient ou regardaient les matchs à RDS ou à TVA Sport, bien, profiteraient de cette notoriété-là, de cette reconnaissance-là envers la marque québécoise qui est sur une bande ailleurs. Alors, c'est toutes des bonnes façons efficaces pour les entreprises de continuer d'explorer le véhicule que représentent les Canadiens. Bon, alors, dans le cas de bandes puis de choses de ce genre-là qui sont fixes, qui obtient l'argent, c'est l'équipe adverse, l'équipe qui accueille, tu vois, ça c'est clair. Quand c'est de la publicité qui est virtuelle, OK? Alors okay, là, tu as des ententes virtuelles voulant dire dans les filets, là, derrière
le... Oui.
Bon, là, ça, ce sont des ententes qui sont des ententes plutôt nationales, avec la Ligue nationale et le diffuseur.
Okay.
Alors là-dessus, ces gens-là peuvent pas... Le diffuseur peut pas garder tout l'argent non plus, la Ligue nationale peut pas la garder non plus, l'équipe qui accueille non plus. Là, tu as une division des revenus qui rentrent. Mais pour ce qui est des pubs, on le voit même dans les séries mondiales. Derrière le marbre, on voyait des pubs de Canadian Tire. pendant les matchs de série mondiale entre les Red Sox et les Dodgers cette année, là. Mais c'était les matchs qui étaient diffusés, bien entendu, au Canada.
Ben oui.
Alors, pour ça, Canadian Tire paie le diffuseur qui vend ces espaces-là, mais le diffuseur, il l'a pas gratuitement non plus de la part de Major League Baseball. Alors, il y a toutes sortes de petites formules là-dedans. C'est pas si compliqué que ça, mais ça varie d'un produit à l'autre, dépendant de la popularité puis la demande.
Parfait. Un gros merci, Ray. Bon week-end à toi.
Merci, Dan. Bon week-end.
Merci bien. Ray Lalonde, expert sport et business pour le réseau Cogeco.